avec Alexandre Sanguinetti. Bonjour.
Bonjour Isabelle, bonjour à toutes et à tous.
Les sénatoriales 2026 se dérouleront le dimanche 27 septembre.
La Chambre haute renouvelle la moitié de ses 348 sièges. Comme la Corse du Sud, la Haute-Corse est concernée. Haute-Corse où, pour l'heure, seuls deux candidats sont officiellement déclarés. Nicolas Battini pour Unione di Badriotti et le sortant Paolo Zantuparigi. Le candidat Femmoa Gorsica qui brigue un second mandat est donné largement favori.
Effectivement, ce que j'entends dire, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de suspense. Moi, j'ai un respect énorme pour les maires, pour les grands électeurs, pour les petites communes du rural surtout. Et donc, je trouve que c'est respectueux d'aller les visiter, d'aller leur faire part du bilan des 6 années passées, de leur expliquer aussi pourquoi je me représente.
Si vous êtes élu, ce deuxième mandat est important puisque, notamment en octobre, sera traité le dossier de l'autonomie de la Corse.
Effectivement, octobre sera un mois très important pour la Corse. Et donc, mon expérience, mais aussi ma place dans le groupe du centre vont peser lourdement sur les décisions qui vont être prises au Sénat. Donc, il est important d'être présent au mois d'octobre à la Chambre haute.
Les 616 grands électeurs de Haute-Corse, qui comprennent donc des maires, des conseillers municipaux ou conseillers territoriaux, pourront également voter pour Nicolas Battini. Le président de Mossa Baladina défend, lui, une candidature de témoignage.
Vous savez, je pense que le sens véritable de l'action politique, c'est précisément de témoigner d'une vision du monde, d'une base programmatique et de propositions de telle ou telle démarche. Nous, nous y tenons évidemment et j'ai décidé en effet de me présenter à ces élections, précisément pour sédimenter la base de soutien que nous pouvons en effet engranger, pas seulement dans le pourtour urbanisé, hein, comme c'était le cas notamment au municipal, mais dans la ruralité profonde. Vous savez que moi-même, je suis issu d'une famille qui est enracinée dans le Bozio depuis des siècles. Donc j'ai aussi la volonté de rendre la parole à tous ces petits maires et ces élus d'endroits de la Corse qui sont parfaitement aujourd'hui abandonnés par les politiques publiques.
Reportage signé Patrick Vinciguerra. À d'autres candidatures, notamment à droite, pourraient se déclarer dans les jours prochains. En revanche, Jean-Sébastien Le Casal, ta figure de l'opposition municipale bastiaise, dont le nom avait été avancé au début du mois, ne devrait pas être partant. En Corse du Sud, sont en lice à ce jour le sortant Les Républicains Jean-Jacques Panoutz, est soutenu par la droite. À droite ajaccienne, Christophe Versigny, le nouveau délégué territorial du RN. Et puis probablement Jean Jouzet, puis le maire nationaliste de Figari. Sa candidature devrait être officialisée dans les prochains jours. Je vous rappelle que la date limite de dépôt de ces candidatures est fixé au 11 septembre.
En politique encore, Alexandre, l'Assemblée de Corse se réunit aujourd'hui et demain.
Et c'est la dernière session avant les vacances d'été pour les conseillers territoriaux. Une session avec un ordre du jour qui fait directement écho à l'actualité insulaire. Paul-Antoine Squarcini.
À commencer par la prévention et les moyens de lutte contre les incendies, mais aussi les déchets, des sujets qui seront évoqués lors des 14 questions orales prévues à l'ouverture de cette nouvelle session. Le foncier animera aussi les débats avec le PADUC et l'intégration de la trajectoire de sobriété foncière de la Corse. L'exécutif prévoit une réduction de 65% de l'artificialisation des sols d'ici 2035 et l'absence des oppositions lors du dernier comité de pilotage en début de semaine prédit des interventions animées. Mais le sujet qui risque de faire débat dans l'hémicycle n'est autre que la langue corse, avec le vote d'un soutien financier de la CDC à l'association Skolagurs à hauteur de 1,2 million d'euros pour l'année 2026-2027. Un sujet qui fait directement écho au récent départ du recteur de l'Académie de Corse, Rémi-François Paoligne. Un départ qui n'a pas manqué de faire réagir la classe politique insulaire, où d'aucuns y voient un mauvais signal pour l'avenir de la langue corse.
Et pour clore ce chapitre politique, Porto Vecchio a adopté son plan local d'urbanisme hier soir en conseil municipal.
L'objectif du document, rééquilibrer résidences principales et résidences secondaires sur le territoire. Selon le maire Jean-Christophe Angelini, son élaboration à ce PLU a été freinée par plusieurs contraintes législatives, notamment la loi Lemeur qui encadre les meublés de tourisme. Au final, donc, le plan a été voté par les 25 conseillers de la majorité alors que l'opposition s'est divisée. L'ancien maire, Georges Mel, et son équipe se sont abstenus.
Parce qu'on aurait dû être peut-être plus persévérant et moins respectueux de la règle qui semble s'appliquer partout. Il y avait des discussions peut-être en profondeur à avoir avec les services de l'État et faire comprendre que c'est une ville en devenir qui a pratiquement 90 ou 92% d'espaces qui sont gelés sur ce territoire de façon naturelle et nous le respectons parce que nous ne sommes pas pour livrer la totalité des espaces à la constructibilité, mais il y a bon nombre de Porto-Vecchiais qui en font les frais, qui auraient la possibilité de se loger sur les espaces justement qui seraient dédiés à la constructibilité et donc cela quelque part en sont exclus et c'est pour cette raison-là que nous nous sommes abstenus.
Et la conseillère d'opposition, Vanina Carelli-Luzzi, elle, a voté contre. Elle estime que les infrastructures ne suivent pas le rythme des constructions permises par ce PLU. Même choix d'ailleurs pour le conseiller d'opposition de droite, Michel Tchouk.
La Corse est en vigilance orange canicule à partir de ce midi.
Les températures maximales dans l'après-midi pourront atteindre les 33 degrés sur le littoral, jusqu'à 37 degrés dans l'intérieur. Situation qui se répète et qui conduit donc la préfecture de Haute-Corse à déclencher une alerte sécheresse avec des mesures de restriction d'usage de l'eau. Interdiction d'arrosage à certaines heures de la journée, de remplissage des piscines également, ou encore de lavage d'espaces publics et de matériel. Également une interdiction d'arrosage un jour par semaine pour certaines filières agricoles.
Et ce 30 juillet est le jour du dépassement.
Oui, l'ONG Global Footprint Network a calculé qu'à partir d'aujourd'hui, de maintenant, nous vivons à crédit d'un point de vue écologique. Car l'humanité, en fait, a déjà consommé l'ensemble des ressources que la planète est capable de produire et de renouveler en une année. Avec notre mode de vie, il faudrait donc 1,73 planète Terre pour assumer tout ce que nous consommons. Anne Le Gall.
Cette date tombe quelques jours plus tard que l'année dernière, mais globalement, la tendance n'est pas bonne. Depuis 50 ans, l'être humain est de plus en plus gourmand en ressources naturelles. Nos prélèvements sur la planète ont triplé. Exploitation de la forêt, de la pêche, de l'agriculture, extraction de minéraux ou de métaux rares. Parmi ces ressources planétaires fragilisées, il y a aussi l'eau. Pour boire, se laver, produire l'alimentation et les objets du quotidien, un Français consomme 500 litres d'eau, rappelle le WWF. Pour Jean Rousselot, responsable de programme au sein de l'ONG, il faudrait revoir les habitudes individuelles et collectives.
Sur cette consommation d'eau, on peut agir assez facilement avec toujours de la viande, mais de la viande en moins et mieux. Donc prendre un bœuf local qui est nourri à l'herbe, c'est très important comme levier. On a aussi les leviers collectifs, c'est-à-dire essayer de faire évoluer aussi les pratiques agricoles qui vont permettre de infiltrer cette eau, de la garder sur le territoire de manière naturelle. Et puis, travailler notamment sur l'accompagnement des agriculteurs qui doivent prendre en compte des nouvelles cultures, par exemple.
Et de façon générale, les pays riches utilisent en moyenne 6 fois plus de ressources que les pays à faible revenu. Pour eux, l'enjeu est aussi de miser sur le recyclage et le réemploi.
À 7h07.